Lors des week-ends et des camps, les éclaireurs, dont nous avons à l'instant entendu une variation sur le thème du Cantique des Patrouilles et le Chant de la Promesse, n'étaient pas du genre à prendre le livre de Job comme lieu de réflexion. En général, ce sont plutôt les textes des évangiles, ce sont plutôt les récits épiques de l'Ancien Testament qui constituent le cœur des moments spirituels. Mais voilà que Bénédicte et Édouard ont souhaité que ce soit dans le livre de Job, au chapitre 28, que nous lisions quelques versets. Alors pour vous resituer l'ensemble du livre de Job, c'est l'histoire d'un homme à qui tout réussit, un peu au sommet de la gloire en quelque sorte. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir dire que sa vie est parfaite. Et puis successivement, il va tout perdre, y compris la santé. Il ne lui reste plus en quelque sorte qu'un faible filet de vie qui coule dans ses veines. Il a perdu famille, biens, richesses. Et quelques amis viennent pour essayer de le consoler, et on découvre rapidement qu'avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Des amis qui, au bout d'un certain moment, en fait, viennent lui faire la leçon et lui dire que s'il est dans cette situation, c'est certainement parce qu'il l'a bien cherché. Et il développe donc une théologie de la rétribution. Et puis, le livre de Job continuera sur des interrogations au sujet de la justice de Dieu, au sujet du malheur de l'humanité. Et nous en sommes au chapitre 28 où nous lisons à partir du verset 9 les versets sur lesquels portera notre méditation. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit « Elle n'est point en moi » et la mer dit « Elle n'est point avec moi ». Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie, elle non plus n'est pas son égale. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Alors, d'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant? Elle est cachée aux oiseaux du ciel? Le gouffre et la mort disent « Nous en avons entendu parler ». Mais c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières, et nous allons chanter au cantique 204, un incontournable lorsqu'il est question de baptême. Seigneur, dirige et sanctifie les deux strophes. Dieu notre Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, du moins parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois tu nous parais lointain, effectivement silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Nous le lisons dans ce livre que nous appelons la Bible. Nous sommes invités à y redécouvrir le trésor qui a été mis pour chacun de nous. Recevons maintenant cette grâce. Chers frères et sœurs, c'est une banalité de dire que les parents espèrent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. J'imagine que c'est aussi ce qui préside un peu à vos choix éducatifs. Globalement, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vos enfants. C'est une banalité pour les adultes, mais pour les enfants, les choses ne vont pas toujours de soi. Parce qu'eux ne sont pas toujours convaincus que nos réactions, ce que nous leur proposons en termes d'activité, les rythmes que nous leur imposons, toutes ces petites choses qui peuvent passer pour des tracasseries aux yeux des enfants, eh bien, ils ne prennent pas toujours conscience que toutes ces choses sont arrangées dans la belle et honorable case « c'est pour ton bien ». Et comme à chaque génération, les parents se font du souci pour leur progéniture, et comme à chaque génération, les parents estiment que les temps sont plus durs qu'avant, que c'était quand même plus facile avant, et qu'il faut donc être d'autant plus préparé pour affronter la vie d'adulte. Alors, de quelle manière les parents aident-ils leurs enfants à se préparer pour la suite ? Ce qui revient le plus souvent dans l'esprit, la bouche des parents est la question du métier. Quel métier faire plus tard ? Et j'imagine, Mathieu, que tu dois déjà avoir des parents qui te mettent un peu la pression pour les études qui ensuite te conduiront à un métier. Le métier, c'est à la fois une manière d'obtenir l'argent dont on a besoin pour vivre, mais c'est aussi une manière d'accomplir une grande part de son existence. Les adultes disent se réaliser. Au fond, c'est faire ce qui nous semble bien et parfois même agréable. Alors, pour avoir un métier intéressant, et il n'y a pas que toi, Mathieu, qui est intéressé par cette question dans notre auditoire, pour avoir un métier intéressant, il s'agit d'apprendre des méthodes de travail et d'acquérir des savoir-faire et des techniques. C'est la raison pour laquelle, même à l'école de la rue Madame, il faut bien travailler, messieurs. Eh, les jeunes, je vous ai l'œil, là. Oui. Eh oui. Il s'agit d'être attentifs à ce que les enseignants nous donnent. L'éducation, bien souvent pour les parents, ça consiste à faire des enfants ce qu'on appelle des homo faber, c'est-à-dire des personnes capables de travailler, capables de fabriquer, capables de produire des biens de consommation, de réaliser des œuvres, de faire quelque chose de leurs mains, quelque chose de leur talent, quelque chose de leur intelligence, de faire peut-être progresser la connaissance du réel. L'homme, dans ces conditions, est capable de transformer les montagnes en vallées, de faire passer les autoroutes au-dessus du vide, de construire des barrages, d'éclairer le dessous de la mer. Et si l'auteur du livre de Job avait bien voulu patienter 1500 ans, il aurait pu parler des protons, des quarks, des ultraviolets, de la conquête de la Lune, de Twitters et d'autres joyeusetés techniques. L'auteur du livre de Job aurait pu copieusement compléter sa liste et néanmoins poser la même question, la sagesse. Où se trouve-t-elle? Depuis Job, l'histoire a montré que l'homo faber n'est pas automatiquement doté de la sagesse, qui est le point sur lequel l'ensemble du livre de Job converge. Pour le dire en une formule, on peut découvrir la fusion nucléaire le matin et envoyer une bombe H l'après-midi. La technique ne nous rend pas plus sages. Elle nous donne des moyens plus sophistiqués pour exprimer notre humeur du moment quand ce n'est pas notre folie. La folie, d'ailleurs, sait-on bien ce que c'est? Quand une personne est-elle folle? À vrai dire, nous ne le savons toujours pas. Nous savons calculer la distance entre Mars et la Terre. Peut-être même savons-nous calculer le poids de Mars. Mais nous ignorons ce qu'est la folie. Alors, comme le philosophe Pascal, nous pouvons considérer que nous sommes tous fous, ou alors décider d'une limite à partir de laquelle quelqu'un doit être déclaré fou. Mais à vrai dire, même les psychiatres, ou surtout les psychiatres, ne retiennent pas ce terme qui est assez imprécis pour être, selon eux, non scientifique. Ceci pour dire que la technique, si elle est précieuse, pour améliorer nos conditions de vie, par exemple, n'est pas suffisante pour nous faire accéder à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Elle n'est pas suffisante pour nous faire accéder à la meilleure part de nous-mêmes. Ce que la langue biblique nomme la sagesse. Alors il n'y a là, dans mon propos, aucune dépréciation de la technique, aucune dépréciation du travail en général, aucune dépréciation des efforts déployés par les uns et les autres pour être de bons artisans, de bons ingénieurs, de bons scientifiques, de bons artistes. Mais il y a là dans le texte un avertissement pour ne pas faire de l'homo faber l'homme accompli. Il ne suffit pas d'être diplômé pour avoir accompli sa vie. Il ne s'agirait pas non plus de faire du travail une sorte d'idole à laquelle il faudrait tout sacrifier. Bon, je sais que vous en êtes conscient, mais c'est pas parce qu'on le dit qu'on le fait. La sagesse est ailleurs, nous dit Job. Alors, dans nos milieux, tout par paillot, les parents misent sur un autre aspect de la vie, la religion. Non seulement nos parents nous imposent d'apprendre sérieusement un métier, mais ils nous donnent l'occasion d'avoir une religion. Mon fils, tu seras baptisé, tu iras au culte, tu recevras ton instruction religieuse, tu connaîtras des textes bibliques, des prières, tu mangeras le pain et tu boiras le vin de la Seine, et tu sauras chanter « À toi la gloire » les yeux fermés. Cette fois, ce n'est plus l'homo faber, c'est l'homo cultor, celui qui pratique le culte. C'est du latin pur jus. Hein. C'est celui qui sonde le Nil, qui consulte la mer. C'est celui qui offre argent, or, onyx, saphir à la divinité, autant de pierres précieuses et de métaux rares que le grand prêtre ensuite porte sur son pectoral. Ce sont là les pratiques cultuelles du Proche-Orient ancien qui sont évoquées par Job, sans être pour autant disqualifiées, mais néanmoins jugées étrangères à la sagesse. Les rituels ne transmettent pas la sagesse non plus. Les rituels ne sont pas une garantie d'accéder à ce qu'est l'humanité vraiment accomplie. La semaine dernière, Jean-Luc Mouton, l'ancien directeur de réforme, était parmi nous. Il a commencé sa mission en Côte d'Ivoire et il nous racontait son effarement en constatant que des personnes qui participent au même culte, comme là ce matin, sont capables de se voler mutuellement. Ça, par exemple, ce n'est pas sage. Mais cela montre que les rituels ne sont pas magiques. Le culte n'offre pas la sagesse de manière automatique. Et la culture, au sens large du terme, ne suffit pas à nous rendre véritablement humains. En une formule que j'emprunte cette fois à George Steiner, l'histoire nous a montré que on peut jouer Chopin le matin et allumer les fours crématoires l'après-midi. L'échec des rituels est de même nature que l'échec de la technique. L'homme, par ses propres efforts, ne peut accéder à la sagesse. Cela, l'apôtre Paul le dira à sa manière, en affirmant qu'on peut avoir une science hors du commun, la capacité de transporter les montagnes, donc une technique parfaite. On peut aussi distribuer ses biens pour la nourriture des pauvres, se faire brûler à la manière des martyrs, donc avoir la forme convenable de la religion. Si nous n'avons pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. L'homo faber, l'homo cultor ne sont pas homo sapiens, systématiquement, du moins au sens biblique du terme. Voilà ce qu'explique le livre de Job en précisant que la sagesse n'est pas sur la terre des vivants. La sagesse n'est pas dans la technique, elle n'est pas dans la culture, elle n'est pas non plus génétique, elle n'est pas sur la terre des vivants. Il n'y a pas un petit gène de la sagesse que l'on se transmettrait de génération en génération. Parce que la sagesse n'est pas une chose, ni une liste de choses. Du coup, la sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait conquérir en faisant une introspection de soi. La sagesse, ce n'est pas simplement un retour sur soi. Parce qu'au fond de soi, on ne trouve pas non plus la sagesse. La sagesse ne consiste pas en un petit quelque chose qui serait caché, qui serait réservé à des initiés. En disant que la sagesse est cachée aux yeux des vivants, le livre de Job veut nous révéler qu'elle n'est pas visible, parce qu'elle n'est pas dans le domaine du sensible, parce que la sagesse, ce n'est pas un quelque chose. Parce qu'elle n'est pas dans le monde des vivants, la sagesse est donc autre chose que ce quelque chose que nous pourrions posséder. Parce qu'elle n'est pas dans le monde des vivants, ce n'est pas quelque chose que nous pourrions acquérir. Parce qu'elle dépasse la science, on ne peut pas la définir. Parce qu'elle dépasse le culte, on ne peut pas la représenter. Et au fond, pour mieux comprendre ce que cela signifie, nous pouvons faire appel à un maître de la sagesse, sagesse qui n'est pas biblique au sens du terme, mais qui fait largement écho à ce qu'expriment les textes bibliques. Confucius, ce chinois contemporain du rédacteur final du livre de Job, qui affirmait au sujet du sage, il est sans idée. Le sage est sans idée. Alors vous pensez bien, Confucius ne veut pas dire que le sage serait un idiot qui n'a aucune idée. Ce que Confucius veut exprimer, c'est que le sage n'a aucune idée en particulier. Il n'en privilégie aucune au détriment d'une autre. Il n'est donc pas prisonnier d'une idée en particulier, et parce qu'il n'a aucune idée plutôt qu'une autre, le sage est celui qui peut les avoir toutes. La sagesse n'étant pas là, immédiatement disponible, immédiatement saisissable. La sagesse consiste en fait dans l'art de sortir de nos habitudes, de nos coutumes, de nos modèles, pour fréquenter d'autres référentiels. Et c'est là d'ailleurs que nous retrouvons notre thème de la folie, présent aussi sous la plume de l'apôtre Paul, qui parle de la sagesse de Dieu comme d'une folie pour les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement de référentiel. Et qu'au fond, la sagesse, c'est ce qui nous fait sortir d'un univers, celui que nous connaissons bien, celui dont nous avons l'impression qu'il est sous contrôle, celui que nous maîtrisons. Il nous fait sortir de cet univers familier pour nous faire accéder à un autre univers. On pourrait dire éventuellement une autre dimension. La sagesse, c'est finalement le fait que nous acceptions que Dieu nous place dans une posture conquérante, qui nous fasse sortir de notre univers si familier. La sagesse, une posture conquérante qui finalement est une sorte de rupture avec le déjà là, le déjà prêt à penser, le déjà prêt à vivre. Il paraît que l'histoire ne repasse pas les plats. Eh bien, dans une certaine mesure, c'est heureux parce que la sagesse biblique n'est pas une manière de réchauffer les bons plats d'hier ou de savoir à coup sûr ce qu'il faut prendre au menu. L'ensemble du livre de Job, depuis les premiers chapitres jusqu'à la fin, va être en fait le creuset d'une protestation. Une protestation contre les réponses toutes faites, celles que les amis de Job vont venir lui apporter comme cadeau. C'est une protestation contre les formules de catéchisme qui prétendent détenir la vérité. Le livre de Job est en fait l'éloge de la protestation contre la pensée commune des amis qui voudraient ramener Job à leur raison. Le livre de Job est l'expression d'une révolte qui est portée au plus haut point de ce qu'un homme est capable de faire. La révolte de Job est portée au statut de sagesse aux yeux de Dieu, qui jugera que Job a bien parlé contre ses amis arc-boutés sur leur science et sur leur culte. La sagesse qui émane de ce livre de Job fait de Job une figure de sage, une figure d'homo sapiens. Et elle nous indique que la sagesse, c'est finalement deux choses. C'est un rapport décomplexé et un rapport iconoclaste à l'égard du monde. Décomplexé parce que Job n'hésite pas à remettre en cause les orthodoxies de l'époque, en vertu de ce qu'il expérimente, lui, Job, qui n'est plus grand-chose qu'un bout de chair sur un tas de fumier. Eh bien, ce bout de chair sur un tas de fumier, ce qu'il expérimente, a autant, si ce n'est plus de poids, que la science érudite de ses amis théologiens. Pourquoi ? Parce que lui fait vraiment l'expérience. Ce n'est pas simplement un savoir livresque, ce n'est pas simplement une technique, mais c'est une disponibilité au monde. Et cela est la vraie sagesse. Il a donc un rapport décomplexé au monde. Il est capable de porter la contradiction à des officiels de Dieu, et ce qu'il dit est loin d'être sans valeur. Iconoclaste, parce que Job casse les idoles, toutes ces idoles qui n'ont plus rien à dire, plus rien à nous apprendre sur ce qu'est la vie. Des idoles qui ne nous aident pas à vivre. Des idoles qui, effectivement, sont des points de repère fixes, bien connus de tous, mais qui, en fait, ne sont plus dans la vraie vie. Ce sont des points de repère qui ne sont que dans les salons où l'on fait de bonnes discussions. Et Job ne vénère pas les reliques du passé, aussi glorieux soient-ils. Sa sagesse consiste à interroger le réel, à s'ouvrir à tous les possibles qui s'offrent à lui, avant de choisir la voie la plus juste, avant de choisir son Tao. Et parce qu'il prend conscience qu'il est sage de fréquenter l'Éternel pour trouver la bonne dimension de son existence, Job va changer de référentiel. Il va changer d'image de Dieu. Il va abandonner le Dieu de la rétribution. Il va abandonner le Dieu qui récompense les justes et qui punit les méchants. Job va changer de référentiel à l'égard de Dieu, c'est-à-dire à l'égard de l'être, c'est-à-dire à l'égard de sa propre existence. Il meurt d'une compréhension étriquée de ce qu'est la vie et ressuscite, et avec lui son histoire familiale, de manière ultime au dernier chapitre. Il ressuscite avec une foi que les professeurs Picon et Gagnebin qualifieraient à juste titre de foi insoumise. Parce que la sagesse que développe Job n'est pas une gymnastique pour nous apprendre à nous courber sans trop de douleur. Ce n'est pas non plus une discipline qui nous apprendrait à avaler les couleuvres sans nous étrangler. La sagesse de Job est animée par cette foi insoumise qui dit non à ce qui opprime l'humanité ou à ce qui lui fait croire dans des chimères, pour dire oui à ce qui la libère, à ce qui lui permet d'entreprendre librement. La foi biblique est insoumise parce qu'elle tire son autorité de Dieu, et dès lors, le croyant découvre qu'il n'a plus rien à conquérir, rien à mater, rien à soumettre, parce qu'il a déjà reçu de Dieu ce qu'il est nécessaire pour lui dans son existence. Et c'est bien le sens du baptême. Et c'est la raison pour laquelle il est heureux que les baptêmes n'interviennent pas trop tard dans la vie des enfants. C'est une manière de dire que vous partez équipés dans la vie. Vous avez en vous ce qui sera nécessaire pour avoir une vie formidable. Il n'y a pas besoin d'écraser les autres, de prendre leur place. Vous partez équipés. Vous n'avez plus qu'à faire valoir vos talents maintenant. Mais aussi, restez disponibles à ce que la vie peut vous offrir. Parce qu'on ne vient pas une fois au monde. Même la sage-femme de mère d'Arthur pourrait le dire. Les parents n'accouchent pas une seule fois dans leur vie, mais les enfants ne viennent pas une seule fois non plus dans le monde. Ils ne cessent de venir au monde. Voilà pourquoi cette sagesse est une manière pour nous de changer de référentiel. C'est que nous avons en permanence besoin de faire mourir un monde et d'en ressusciter un nouveau. Nous avons besoin de changer souvent de référentiel pour ne pas nous habituer à nos prisons, pour ne pas nous habituer à nos captivités. Martin Luther, lorsqu'il écrit son traité sur la captivité babylonienne, fait un véritable travail de réforme au titre de révolution copernicienne parce qu'il change de référentiel. La philosophie des Lumières est une manière aussi de changer de référentiel. Les théologiens protestants du XXe siècle changent de référentiel et chacun de nous est appelé à changer de référentiel régulièrement. C'est peut-être ce qui distingue la morale de l'éthique, c'est que l'éthique est une manière pour nous de changer de référentiel, non pas pour suivre les effets de mode, mais parce que la vie évolue, que la vie bouge, qu'elle grandit, qu'elle mute, qu'elle se transforme, et qu'il faut donc aussi transformer, métamorphoser notre éthique. Au fond, la sagesse, qui a un lien étroit avec l'éthique telle qu'elle est comprise dans le protestantisme, la sagesse qui nous fait changer de référentiel, c'est la seule qui soit capable, je pense, de nous permettre d'affronter la vie sous tous ses aspects. La seule qui soit en fait capable de nous permettre de faire face aux événements absurdes, ceux qui n'ont pas de cause précise, ceux pour lesquels il n'y a aucun coupable identifiable. Au fond, cette sagesse qui nous permet de changer de référentiel, c'est une sagesse qui travaille sur les discontinuités. Et il serait assez illusoire de penser que la vie est tout à fait linéaire. Et lorsqu'il y a des discontinuités, lorsqu'il y a des ruptures, lorsqu'il y a des cassures, c'est alors que cette sagesse est efficace pour nous aider à continuer à inscrire notre vie dans le quotidien. Cette sagesse nous permet de faire face à ce qui nous arrive parfois et qui en fait n'est rattachable à rien du tout. Au fond, cette sagesse est efficace quand on est renvoyé à nulle part, que c'est l'inconnu, que c'est extravagant, que c'est extraordinaire, que les montagnes se mettent à s'effondrer, que les collines se mettent à chanceler. Et au fond, cette sagesse est efficace pour nous aider à surmonter ce qui est franchement inhumain dans notre histoire, et suffisamment inhumain pour que cela ne puisse pas se résoudre avec nos moyens trop humains. La sagesse de Job, c'est une promesse. C'est la promesse que nous sommes capables de traverser l'horreur. Mais la sagesse de Job n'est pas une recette de cuisine qu'il suffirait de reproduire à l'identique. C'est une promesse que, lorsque nous sommes affrontés à des choses qui nous semblent hors de nos capacités, nous avons, en fait, les moyens d'aller au-delà de nos capacités. C'est donc à ce prix que cette sagesse nous permet d'assumer les discontinuités de la vie, les moments de rupture, les moments de pure folie. Amen.